Comme mentionné, le passage de ce matin est dans 1 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 8, dans la nouvelle édition de Genève. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. »
Merci, Esther. C'est en nous approchant de Jésus-Christ qu'on s'approche les uns des autres. C'est en grandissant en Jésus-Christ à son image qu'on apprend à s'aimer les uns les autres. Et l'Église devient ainsi. Lorsque nous nous approchons de Christ et qu'on apprend à s'aimer, à être là les uns pour les autres, l'Église devient ainsi. Un édifice spirituel, un temple qui glorifie Dieu qui est dans les cieux. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. S'approcher de Jésus-Christ, c'est participer à la plus riche et la plus grande des relations et la plus belle des causes imaginables. Je veux revenir sur le passage de la semaine dernière. Regardez dans vos Bibles le verset qui précède le passage de ce matin, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est très précieux. C'est un passage qui est riche pour nous parler de l'Église, mais c'est un passage qui est extrêmement riche pour nous parler de Jésus-Christ lui-même. Et si vous regardez au verset 3, ce qui est mentionné, « Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Pierre fait un argument, puis il dit « L'Église a été sauvée pour s'aimer, pour prendre soin les uns des autres. » Puis il termine cette section-là en disant « Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Vous avez connu l'amour de Dieu, vous avez connu la bonté de Dieu. » Bien, agissez maintenant avec cet amour-là. Agissez conséquemment à cela. Mais il y a vraiment une perle qui est là dans ce passage-là. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Pierre est en train de citer un psaume. Un psaume, c'est dans l'Ancien Testament. Jésus de Nazareth n'est pas né encore. On est dans l'Ancien Testament, d'accord? Dieu le Fils existe, mais il ne s'est pas fait homme. Et donc, Pierre est en train de citer le psaume 34, verset 9. Je vous le lis. « Sentez et voyez combien l'Éternel ou le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Même lorsque je suis dans Pierre, avant d'arriver au verset 4, le Seigneur, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. Dans le psaume 34, le Seigneur, c'est qui? C'est Dieu. C'est l'Éternel. Maintenant, regardez le passage de ce matin. Au verset 3, je lis, « Et si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui. » Qui, lui? Le Seigneur, Dieu? Pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Le Seigneur, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Le Seigneur qui est bon, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu le Fils. Avant son incarnation, c'est à lui dont il est fait référence. Il y a quelque chose d'extraordinairement précieux ici. Si vous dites « Dieu est abstrait pour moi », Dieu c'est comme « oui, peut-être, un créateur, ça va, j'accepte cette idée-là, mais il demeure distant. » Comment est-ce que tu fais pour goûter que Dieu est bon? Tu fais la connaissance de Jésus-Christ. puis tu découvres à travers la personne et l'œuvre de Jésus-Christ l'amour de Dieu pour toi. Un amour absolu, un amour sans compter. Il s'est donné lui-même, il est mort sur la croix pour tes péchés. Voyez-vous, c'est dans l'Évangile que j'expérimente et que je goûte que Dieu est bon. C'est dans l'œuvre et la personne de Jésus-Christ que je goûte et que j'expérimente que Dieu est bon. C'est dans son amour pour moi. C'est drôle, tantôt, c'était pas rangé avec le gars des vues, j'ai demandé à Jonathan, qu'est-ce qui te fascine avec la personne de Dieu? De quoi il nous a parlé? De l'amour de Dieu, de la justice de Dieu, sa sainteté, de l'Évangile. Ce qui le fascine, c'est qu'il voit qui Dieu est à travers son amour, sa sainteté, réunie, réconciliée dans l'Évangile. Et Pierre est en train de me dire que Jésus-Christ n'est pas seulement le prophète des chrétiens. Jésus-Christ, ce n'est pas seulement le grand enseignant des chrétiens. Si j'allais parler avec un ami musulman, puis je disais, « Dis-moi qui est Mahomet? » C'est le grand prophète. C'est le prophète de l'islam. Jésus-Christ n'est pas seulement le grand prophète des chrétiens. Oh, c'est un prophète, il n'y a pas de doute. C'est le Seigneur lui-même. C'est le Seigneur lui-même. L'Évangile, c'est Dieu le Fils qui quitte la gloire, qui vient parmi les hommes, se donner en sacrifice sur la croix pour nos péchés. Et c'est lorsque je connais Jésus-Christ que je sais et que j'ai goûté que Dieu est bon. L'Évangile doit être au centre de toute ma vision de la vie chrétienne. L'Évangile doit être au centre de mon expérience de l'Église. L'Évangile doit être au centre de ma rencontre avec Dieu au quotidien. Parce que c'est là que je connais et que je savoure la bonté de Dieu. Amen? Et donc, si pour toi, Seigneur, c'est abstrait, tu dis, OK, Dieu peut-être, oui, il devient extrêmement concret. Puis son amour devient très concret quand tu connais Dieu à travers la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Là, tu vas pouvoir dire, j'ai goûté que Dieu est bon. J'ai goûté que Dieu est bon. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon, combien le Seigneur est bon. Maintenant, il continue en disant, « Approchez-vous de lui, pierre vivante parlant de Christ, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » Jésus lui-même avait utilisé une expression, je vais y revenir tout à l'heure, lorsqu'il parle de cette pierre qui va être soit une pierre angulaire sur laquelle on va construire ou une pierre d'achoppement. Un stumbling block, quelque chose qui va me faire trébucher. Hein? Une pierre, ça peut servir à construire une maison, mais placée au mauvais endroit, ça peut servir à autre chose aussi. Puis on a deux, trois passages dans l'Ancien Testament où il y a cette idée-là qui est utilisée pour parler du Messie qui va venir, du roi qui va venir. À quelques reprises, on a ça. Jésus lui-même va utiliser cette expression-là pour parler de lui. Dans Matthieu 21, 42, on lit, « Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. » Jésus parlait de lui-même. Il parlait de lui-même, puis il parlait des autorités juives qui étaient là en train de construire la religion de l'époque, puis ils étaient là en train de bâtir un édifice à la gloire de Dieu, pensait-il, puis ils choisissaient les pierres pour cet édifice-là, puis ils sont arrivés sur Jésus. Ils l'ont rencontré, ils ont entendu ses enseignements, ils sont allés voir, est-ce que c'est un prophète, est-ce qu'il vient de Dieu? Ils l'ont regardé, puis ils ont dit, non, c'est pas bon ça. Pas bon. On ne veut pas construire sur cette pierre-là. Rejetée par les hommes. Mais choisie et précieuse pour Dieu. Pierre va revenir sur ça plus tard dans sa lettre, parce qu'il va parler de nous comme des pierres vivantes, rejetées par les hommes, mais choisies et précieuses pour Dieu. Alors, Christ est cette pierre. Alors, même que les hommes l'arrêtent, le rejettent, ils disent « Non, c'est pas toi le Messie. C'est pas toi le Messie qui est annoncé dans l'Ancien Testament. On te rejette entièrement, on va même te livrer aux non-juifs. » dans la mort la plus humiliante possible. Tu vas être crucifié. Puis on va aller fêter ça. Ça va être un espèce de gros party de malade. Quand tu vas être sur la croix, on va être dans la joie totale. Puis pendant même qu'eux autres sont en train de le rejeter, ils sont en train de confirmer les prophéties. Ils sont en train de réaliser les prophéties que Dieu avait annoncées, parce qu'à travers ce rejet-là, Dieu est simplement en train de confirmer qu'il avait choisi et qu'elle était précieuse aux yeux de Dieu, cette pierre-là, Jésus-Christ. Parce que c'est la pierre d'angle qui rend tout possible. Pierre d'angle, c'est dans la maçonnerie, là, on a un maçon ici, il pourrait me dire si on fait ça encore comme ça aujourd'hui, mais à l'époque, on avait une pierre qui partait tout le bâtiment. Toutes les autres pierres étaient alignées sur cette pierre-là. Vous pouvez chercher sur Internet, vous allez trouver ça. Et donc, cette pierre-là est super importante. Elle doit être parfaite, elle doit être juste, elle doit être bien placée. Elle oriente tout le reste de la construction. Jésus-Christ est celui par qui tout est rendu possible. Mettez-vous un instant dans les bottines de Dieu le Père, qui crée l'univers, qui crée les cieux et la terre, qui crée une humanité superbe, belle. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, c'était comme la beauté parfaite, créée à l'image de Dieu, tout était splendide. Et cette humanité-là se rebelle contre Dieu, rejette Dieu. Maintenant, Dieu est juste. Il est bon, mais il est juste. Et lorsque Christ vient et meurt sur la croix pour nos péchés, il rend possible que la justice de Dieu et son amour et sa grâce soient pleinement opérantes, qu'il puisse pardonner des pécheurs tout en demeurant juste parce qu'un autre a pris notre place. Ainsi, l'œuvre de Christ n'est pas seulement précieuse à nos yeux à nous. Dans le passage, ce n'est pas à nos yeux à nous, c'est aux yeux de Dieu. Dieu lui-même est là puis il dit « mon fils ». Tu fais toute ma joie. Tu fais toute ma joie. Tu fais toute ma joie. Et comme je vous le dis, un des thèmes dans Pierre, je l'ai abordé lorsqu'on a commencé la lettre, mais 1 Pierre, c'est une lettre qui est écrite pour une église qui souffre, une église qui n'est pas accueillie dans la culture, une église qui est rejetée, une église qui est persécutée, une église qui va être encore plus persécutée, violemment persécutée. Donc, une église qui est rejetée. Et donc, il va y avoir ce thème-là qui va être développé en parallèle entre ce que Christ a subi et ce que Christ a reçu maintenant, la résurrection et la gloire, et ce qui nous attend, nous, et ce qui nous attend, nous, ensuite. Rejetée, mais choisie et précieuse. C'est des thèmes qu'il a déjà développés. Ainsi, Jésus-Christ est la révélation même de Dieu, le moyen non seulement de connaître Dieu, mais d'être réuni à Dieu dans cette vie et pour l'éternité. Et ce que Pierre nous dit dans ce passage-là, Jésus peut être pour toi soit le fondement de ta vie, soit une occasion de scepticisme et de scandale. C'est ça que Jésus produit. Tu annonces l'Évangile à quelqu'un, la personne entend l'Évangile, puis le message de l'Évangile, c'est un message intransigeant. Recevoir l'Évangile, c'est recevoir l'idée que Dieu est amour, mais que Dieu est aussi juste. C'est recevoir l'idée que Dieu aime, mais que Dieu doit exercer la justice, que Dieu doit à la fois satisfaire son amour, sa bonté, mais toutes ses vertus, sa sainteté aussi. Et donc, ça veut dire que Dieu est à la fois bienfaiteur et juge des hommes. Parce que nous sommes pécheurs, puis si tu en doutes, tu as juste à demander à tes amis si tu es quelqu'un de toujours aimable ou si parfois tu es quelqu'un de détestable. Ça, c'est tes péchés probablement qui sont là. Et donc, lorsque j'annonce l'Évangile à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je suis en train de lui dire, regarde, premièrement, Dieu est amour, mais Dieu est juste. Toi, tu es pécheur, puis il y a un seul moyen que tu sois sauvé. C'est Jésus-Christ. Ce n'est pas assez de dire aux gens « Dieu est bon, Dieu est amour, mais Dieu est saint, Dieu doit juger. » Il faut en plus de ça que je dise, il n'y a aucune autre religion qui va te sauver. Ce n'est pas par orgueil. C'est parce qu'il n'y a personne d'autre qui est mort sur la croix pour tes péchés. S'il y avait un autre moyen d'être sauvé que par le sang de Christ, peut-être qu'il y aurait d'autres religions qui pourraient te sauver. Mais il n'y a personne d'autre qui l'a fait. Et donc, on a cette image-là qu'on trouve à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament, qui revient 7 fois même dans le Nouveau Testament, cette idée que Christ est soit un fondement pour ta vie, pour l'Église, pour ton salut, soit une occasion de chute. Et si ce n'est pas concret pour toi, même comme chrétien, va annoncer l'Évangile cet après-midi. Tu vas le savoir. Annonce l'Évangile de Jésus-Christ. Mets pas de côté les morceaux difficiles à avaler. Présente tout l'Évangile de Jésus-Christ. Tu vas le savoir. Il y en a qui vont te dire, « Wow! J'ai jamais entendu parler de l'amour de Dieu comme ça. » Plusieurs vont te dire, « Voyons donc, toi, je veux rien savoir de ce Dieu-là. » Mais si tu n'avais pas parlé de Jésus, puis tu avais dit, « Dieu est amour, il nous aime tout le monde, puis tout va bien aller, kumbaya Seigneur. » Écoute, comme, hey, on croit la même affaire, toi puis moi. On est au même endroit. Quand tu parles de Christ, soit que ça va édifier, soit que ça va scandaliser, ça va être un des deux. 1 Pierre 2, 6 à 8, « Car il est dit dans les Écritures, « Voici, je mets en Sion, en Israël, une pierre angulaire, choisie, précieuse. Celui qui croit en elle ne sera point confus. » Il est en train de citer l'Ancien Testament. « Celui qui croit en elle, lorsqu'il va se présenter devant Dieu, ne sera pas confus. Il ne sera pas dans la honte. » Parce que Christ a payé pour lui. Celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Pas parce qu'on est les meilleurs, Pierre a déjà dit, l'honneur qui nous est réservé lorsqu'on va entrer dans la présence de Dieu. Quand mon salut va être entièrement réalisé, quand je vais avoir un corps glorifié, quand la possibilité de pécher puis d'être moron ne fera plus partie de ma vie, alors, je vais recevoir l'honneur d'avoir un corps glorifié comme Christ, puis d'être constamment en train de faire le bien, d'être dans la présence de Dieu. L'honneur est pour vous. L'honneur est pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement, une occasion de chute, un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Christ peut être soit le fondement de ta vie, soit un objet de scandale dans ta vie. S'il est le fondement de ta vie, c'est la pierre d'angle à laquelle tu vas venir t'ajuster. Si c'est le fondement de ta vie, tu entres dans la famille de Dieu parce que tu viens te joindre à cette pierre-là. Si c'est le fondement de ta vie, tu vas venir t'ajuster à lui, tu vas te modeler sur lui, tu vas vouloir devenir comme lui, tu vas vouloir lui ressembler. C'est vraiment fascinant dans ce passage-là. On a commencé avec une citation du psaume 34 où on voit que Jésus est le Seigneur, il est Dieu le Fils. On voit ensuite de ça qu'il est notre Sauveur. Puis enfin, il devient une des pierres de cet édifice-là. Pensez-y un instant. Non seulement il est Dieu, non seulement il est mon Sauveur, mais lui-même, par sa vie, il s'est fait homme. Il devient une des pierres de cet édifice parce que Christ est maintenant mon frère. Je suis entré dans la famille de Dieu, il est mon frère aussi. Il est mon Dieu, mon Seigneur, mon Sauveur et mon frère. Alors, tu as une décision à prendre. Aujourd'hui ou bientôt. Aujourd'hui ou bientôt, tu as une décision à prendre. Est-ce que Christ va être pour toi un objet de scandale, de scepticisme? Tu vas dire, j'aime le message des chrétiens, mais il y a un bout où je décroche. C'est quand ils commencent à me parler d'un seul sauveur, là je débarque. Ça fait pas de sens pour moi. Mais si Dieu t'accorde la grâce de saisir l'Évangile, ce que tu vas dire un jour, c'est ce qui ne fait pas tout à fait de sens pour moi, c'est qu'un Dieu saint m'accueille dans sa présence. Excusez l'anglicisme, mais ça fait du sens seulement à travers la personne de Jésus-Christ. Et donc, tu as un choix à faire. Tu ne peux pas juste prendre de Jésus les côtés accueillants, gentils, il accueillait tout le monde, les prostituées, il était là, il était avec eux. J'ai un ami qui me disait, le Dieu de l'Ancien Testament, je ne suis pas capable, Yannick. Je vous ai déjà dit ça, hein? Mais Jésus, ça va. J'essayais de lui expliquer qu'il n'y a personne qui parle du jugement dernier comme Jésus dans la Bible. Il n'y a personne. J'essayais de lui expliquer, c'est juste que tu n'as pas compris que l'Ancien Testament dit plein d'affaires qui ne sont pas claires jusqu'à temps que Jésus les dise beaucoup plus sévèrement puis beaucoup plus clairement. Tu n'as pas saisi l'Évangile encore. Et donc, je t'invite à prendre cette décision-là, plus tôt que plus tard, à prendre la décision de construire ta vie sur ce fondement-là, sur la personne de Christ. Puis ça ne fera pas de toi quelqu'un de parfait, mais tu es dans l'attente au jour où tu vas te retrouver dans la présence de Dieu, puis tu vas avoir cette assurance, non pas en toi-même, mais en Jésus-Christ. Plus je vieillis, plus j'ai hâte de partir. C'est vrai? C'est vrai? Plus je vieillis, plus j'ai hâte de partir. Pas parce que mon corps vieillit. Puis non, en dedans, je me sens comme si j'avais 21 ans, juste un petit peu moins nono. C'est tout. Un petit peu moins jeune, je m'excuse. Un petit peu plus expérimenté, on va être politiquement correct. Mais plus je vieillis, plus j'ai hâte de partir. Parce que je sais que lorsque je vais me présenter devant Dieu, il ne va pas m'accueillir simplement parce qu'il est le Dieu d'amour qui pardonne puis qui oublie toutes les fautes. Il va m'accueillir parce que je suis caché en Jésus-Christ. Et je ne serai pas confus, pas parce que ma vie va avoir été parfaite. Je confesse des péchés à toutes les semaines, Seigneur. À toutes les semaines, je vais voir le Seigneur et je dis, Seigneur, je me repens, je n'ai pas eu une bonne attitude, je suis désolé, je ne t'ai pas glorifié. Dans mes pensées, dans mes actions, dans mes paroles, ça n'avait pas d'allure ce que j'ai fait là, Seigneur, je suis vraiment désolé. Mais je ne serai pas confus parce que je vais être caché en Christ. Et c'est sa justice à lui. Et donc, j'attends les honneurs de celui qui est caché en Jésus-Christ. Et je t'invite à prendre cette décision-là. Il y a quelques semaines, on a eu un baptême. Ce baptême-là est un témoignage public. Il y en a d'autres qui sont en train de se préparer à se faire baptiser maintenant. Lorsqu'ils vont se faire baptiser, ils vont témoigner publiquement qu'ils ont pris cette décision-là. Quand bien même les hommes les rejetteraient à cause de leur foi, ils ont reconnu en Jésus-Christ le fondement pour leur salut. Et je t'invite à prendre cette décision-là, simplement, dans ton cœur, honnêtement, devant Dieu, puis dire, Seigneur, c'est sur toi que je veux construire ma vie parce que le pardon de Dieu qui m'est accordé est possible seulement en toi. Et donc, je t'invite à venir me sauver et à continuer à me sauver et à me transformer tous les jours de ma vie. Je t'invite à prendre cette décision-là. Ça va être la plus belle décision de ta vie. Tu ne regretteras pas cette décision-là. Si c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de faire ça en toi, tu ne regretteras pas ça. Tu vas bénir Dieu jusqu'à la fin de tes jours et pour l'éternité. Et pour l'éternité. Et si l'Évangile est pour toi une occasion de chute, s'il y a des choses qui te tracassent puis tu dis « ça ne passe pas ce message-là pour moi », je t'invite à fouiller, à poser des questions, à interroger, à examiner, à aller plus loin dans le passage, dans la personne de Christ, à étudier. Trouve-toi un chrétien à harceler de questions, là. Puis il disait, t'es supposé connaître ta Bible et avoir les réponses. Va les trouver, puis je veux des réponses. Parce que Christ est vraiment merveilleux. Et il supporte très bien l'examen. Il supporte très bien l'examen puis nos questions. Maintenant, Pierre ne nous parle pas seulement de l'Évangile ou de la personne de Christ, il nous parle de l'Église, Christ et nous, tous des pierres dans la maison de Dieu. Au verset 4, on lit « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Je vais revenir sur la notion de sacerdoce la semaine prochaine. Pierre continue à en parler dans le prochain passage. On va revenir sur ça. Mais certainement, lorsque Pierre décrit Jésus comme une pierre vivante, clairement, selon moi, il fait allusion à sa résurrection. Christ est mort, mais il est ressuscité d'entre les morts et il est cette pierre vivante sur laquelle l'Église est construite. Parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et il nous dit, maintenant, vous qui avez cru en lui, vous avez reçu une vie nouvelle. Vous êtes des pierres vivantes. L'image qui me venait à l'esprit quand j'étais en train d'étudier le passage, c'est l'Église, ce n'est pas un chantier de construction qui a été abandonné. Vous avez déjà marché dans un chantier de construction abandonné, puis il y a des briques qui traînent un peu partout, puis là, tu as des montagnes de briques, puis là, c'est cassé. Puis des fois, tu vas marcher là-dedans, tu veux te ramasser quelques briques, tu as un petit projet à la maison, puis c'est des montagnes, c'est n'importe comment, c'est démoli, c'est pas abouti. Mais l'Église, ce n'est pas ça. L'image, ce sont des pierres vivantes qui viennent et qui s'approchent de cette pierre d'angle qui est Jésus-Christ. Non seulement notre salut est possible grâce à lui, mais c'est lui qui est notre modèle. Voyez-vous, la pierre d'angle doit être absolument parfaite parce que tout le reste de l'édifice va être ajusté à cette pierre-là. Bon, puis peut-être que j'allais plus loin que la pensée de Pierre, mais l'image qui me venait à l'esprit, c'est plus je m'approche de Christ, plus je m'approche des autres pierres. Avant ça, on peut être éparpillé n'importe où sur le chantier. Mais au fur et à mesure qu'on va s'approcher de Christ, c'est ça qu'il dit, hein? Approchez-vous de lui et édifiez-vous. Jésus-Christ est au centre, est au cœur de l'édification de l'Église. Pierre va devenir de plus en plus pratique dans la lettre, puis il va y aller avec des impératifs, puis il y a des choses exigeantes, des choses qui demandent vraiment de renoncer à soi, qui demandent vraiment de se donner, qui demandent vraiment beaucoup d'humilité qui s'en vient dans cette lettre-là. C'est une lettre qui est challengeante à fond. Et vivre en Église, c'est un gros challenge. Parce qu'on demeure des pierres très imparfaites. Et c'est pour ça que Pierre adresse cette exhortation. Il dit « Aimez-vous ardemment ». Rejetez votre ancienne manière de vivre, votre ancienne manière de vivre les relations humaines, puis édifiez-vous ensemble afin de devenir une maison de Dieu, afin de devenir une maison, un édifice spirituel à la gloire de Dieu. Si vous cherchez la gloire de Dieu sur la terre, puis là, les cyniques, s'il vous plaît, retenez-vous, c'est dans l'Église que vous allez trouver. L'Église est beaucoup plus belle qu'un coucher de soleil. L'Église est beaucoup plus belle qu'un bébé qui vient au monde. Il est facile à aimer, il est tout beau. Il ne t'a pas volé de nuit encore. Je ne parle pas des nuits quand il arrive au monde. Je parle des nuits qu'il va te voler plus tard, quand il va être un adulte, ou presque. L'Église est plus belle que tout ce qu'il y a sur la terre. Parce que l'Église, c'est ce rassemblement de gens disparates. De personnes qui auraient tellement de facilité juste à dire, « Regarde, moi, je vais rester chez nous. J'ai ma Bible, puis maintenant, on a Internet. Fait que je peux avoir les meilleurs prédicateurs dans mon salon. J'ai ma Bible, puis en plus de ça, il n'y a pas de chrétiens. C'est parfait. » Non, mais j'ai le meilleur des mondes. Moi puis Jésus, on s'entend toujours bien. Il est cool avec moi, puis je suis cool avec lui. De temps en temps, il me montre des petites choses. Je lui demande pardon, mais il me pardonne tout le temps. Dans le fond, je n'ai même pas besoin de changer, puis il m'aime quand même. Mais c'est même pas beau, ça. Tu n'as même pas besoin de l'Évangile pour vivre ça. Être bien avec toi-même, puis l'univers, puis un Dieu qui te confronte jamais sérieusement à travers des relations humaines. Tu n'as pas besoin de ça. Il y a plein de religions dans le monde qui offrent ça. Tu es bien avec toi-même, puis ton Dieu imaginaire. Dieu devient réel quand tu es obligé d'aller puiser dans l'Évangile pour aimer des gens dans l'Église de Jésus-Christ. Est-ce que ça se tient, ce que je viens de dire? Dieu devient très, très réel. Quand il ne suffit pas d'élever nos mains puis chanter des cantiques, mais que j'ai besoin de me battre avec moi-même, de supplier l'Esprit-Saint de m'aider à vivre sa parole concrètement avec des gens qui, normalement, devraient être tellement faciles à aimer parce qu'ils ont tous cru en Jésus, fait qu'ils sont faciles à aimer, mais ils sont difficiles à aimer. Ils sont tough à aimer. C'est là que l'Évangile devient concret. C'est là que je commence à vivre vraiment la lumière de l'Évangile. C'est lorsque j'apprends à vivre ces vertus-là en Église, par l'Esprit qui habite en moi, cette vie nouvelle qui est en moi. Et puis Pierre dit que ça va être un sacrifice. Ça va être un sacrifice spirituel qu'on va offrir. La beauté de l'Église, c'est que dans l'Ancien Testament, comme je le disais tout à l'heure dans le cours à 9h, dans l'Ancien Testament, plus facilement, tu pouvais aller faire tes devoirs religieux au temple, puis après ça, hypocritement, vivre une vie complètement en contradiction avec ça. Mais Pierre vient de me dire que le temple, c'est l'Église. Fait que je peux venir chanter des chants ici le dimanche matin, puis après ça, pas côtoyer de chrétiens, pas être en communion avec l'Église, pas aimer les frères, puis me faire accroire quelque chose. Mais honnêtement, je suis vraiment loin, vraiment loin. Parce que le temple, c'est l'Église. Ce sont mes relations avec les frères et sœurs où je suis en train d'offrir un sacrifice d'amour à Dieu en aimant les frères et sœurs que je suis en train d'offrir un sacrifice spirituel. C'est vrai à la maison. C'est vrai aussi avec des non-chrétiens. C'est vrai avec mon boss s'il n'est pas chrétien ou s'il est chrétien. Mais je suis en train d'offrir un sacrifice spirituel concrètement par ma vie, parce que l'Église est le temple de Dieu. Et ce qui va rendre cela agréable à Dieu, c'est pas que je performe, c'est pas que je réussis, c'est quoi? C'est quoi qui est écrit dans le passage? Agréable à Dieu par l'Évangile de Jésus-Christ. Agréable à Dieu par l'Évangile de Jésus-Christ. Ce qui nous rend aptes à vivre ce que Pierre nous dit ici, c'est l'Évangile de Christ. Ce qui fait que Dieu nous est favorable et qu'il nous aime, ce qui fait que l'Esprit-Saint intercède pour moi pendant que j'ai de la difficulté à vivre ma vie chrétienne puis à aimer les gens autour de moi, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. Agréable à Dieu par l'Évangile de Jésus-Christ. Puis ce que je partageais ce matin, je vais terminer avec ça, je vais demander aux musiciens de venir me rejoindre. Ce que je partageais ce matin dans le cours, c'est que ce qui plaît à Dieu, c'est lorsque je suis en train de lutter à cet endroit-là, où je veux participer à l'Église. Fait que peut-être que tu es ici ce matin, puis tu vas dans une église une fois de temps en temps. Puis tu n'adhères pas à une assemblée, pour toutes sortes de raisons. Peut-être que tu as vécu des expériences difficiles dans des assemblées. Il y a des expériences, des fois, qui sont terribles dans les églises. Mais peut-être aussi, c'est parce qu'on ne t'a pas enseigné que la vie chrétienne est une vie communautaire et que, dans le fond, une brique toute seule sur un chantier, ça a l'air d'un caillou qui traîne, tu sais. Mais lorsque l'Église se réunit en s'approchant de Jésus-Christ, ça, c'est un bel édifice qui s'élève. Et peut-être que Dieu est en train de t'appeler à t'engager envers une église locale. Vraiment t'investir, être présent, puis accepter de te battre pour aimer l'Église. Parce qu'en faisant ça, en traversant ça, en expérimentant cela, tu vas être en train de grandir dans l'Évangile, tu vas être en train de t'approcher de Jésus-Christ. Et tu vas venir t'ajuster à cette pierre d'angle-là qui est parfaite. Toi, tu n'es pas parfait, moi, je ne suis pas parfait. Mais tu vas venir t'ajuster à cette pierre d'angle-là qui est parfaite. Et en s'approchant comme ça, on va être modelé, chacun d'entre nous, un peu plus à l'image de Christ. Qu'est-ce que tu peux faire avec ça cette semaine? Si tu dis, ouais, mais je viens à l'Église, mais à part de ça, je n'ai pas de communion. Il y a quelqu'un autour de toi, proche de toi, qui vient peut-être à l'Église pour la première fois ce matin puis qui aimerait s'ouvrir la Bible avec toi. Tu peux penser à un frère puis tu dis, hey, j'allais commencer tel livre chrétien, on part toujours des nouveaux livres. Un livre chrétien, ça se lit bien à deux. C'est correct à un, mais à deux, c'est mieux. Puis on va prendre un café, puis on échange, puis on discute ensemble, puis on ouvre la parole. Peut-être que tu peux te joindre à un petit groupe où tu vas entrer en relation, puis tu vas t'exposer. Non, moi, je n'ai pas besoin de ça. Tu as besoin de ça. Peut-être dans ton ancienne vie, selon la psychologie populaire du monde, tu n'as pas besoin de ça. Mais spirituellement, tu as définitivement besoin de ça. Puis si tu n'en ressens pas le besoin, c'est ton appel. C'est ton appel. Parce que tu n'as pas été sauvé pour toi. Tu as été sauvé pour aimer l'Église de Christ et glorifier Dieu. Et si à quelque part, une des choses avec lesquelles tu luttes dans ta vie, c'est ce sentiment d'être rejeté. Parce que c'est présent. C'est présent dans l'Église, c'est présent dans la culture. Christ me dit que tu as été choisi et que tu es précieux si tu es un enfant de Dieu. Puis tu as été joint à la famille de Dieu. On va prier ensemble, on va préparer nos cœurs à prendre le repas du Seigneur ensemble.